Radio Scopie. Radioscopie,
Philippe Labour,
Jacques Chancel. Philippe Lamour, vous avez attendu 1980 pour jeter un regard sur l'essentiel de ce siècle, enfin ce que vous estimez être vous l'essentiel. Vous êtes né en 1903 dans le Nord et cela a de l'importance. Vous êtes fils d'agriculteur, vous êtes bien évidemment monté à Paris, vous avez été avocat. Mais je crois, si je m'en tiens à tout ce que disent ceux qui vous connaissent bien, vous êtes un homme d'action et vous êtes, ce qui me paraît plus important encore, un homme libre. Votre nom est attaché à la transformation de la région du Languedoc. Mais je me demande comment l'enfant du Nord, né à Landrecy, comment se fait-il que cet enfant du Nord soit devenu un homme du Sud?
C'est un accident du travail.
Oui, mais voulu, non?
Voulu, plus que hasardeux, au contraire. Pendant la guerre, j'étais réfugié avec ma famille dans le centre de la France et j'ai été prévenu en temps voulu que ma présence près de Vichy n'était pas opportune. Alors j'ai cherché, avec les quelques économies dont je pouvais disposer, à m'installer dans un pays où on ne me connaissait pas. Par conséquent, l'objectif, c'était de trouver, sans s'exiler, avec la famille que j'avais à nourrir, de trouver un endroit dans lequel, mon Dieu, j'aurais peut-être des possibilités de demeurer plus anonyme. C'est ainsi que j'ai cherché en bicyclette un lieu d'atterrissage, et que, ayant crevé un pneu en descendant la côte entre Nîmes et Arles au village de Bellegarde, j'étais prendre un verre avec le réparateur de bicyclettes. Je lui ai demandé s'il y avait des biens agricoles libres dans la région. Je suis monté voir celui qui m'avait indiqué, j'y suis toujours.
Oui, mais, et vous le dites très bien dans votre témoignage, on a envie à un certain moment de revenir à l'enfance. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui vous pensez quand même au petit sentier du Nord.
Oui, c'est une chose assez curieuse d'ailleurs de voir que, après avoir une vie nécessairement un peu agitée, je dois reconnaître une certaine diversité.
Turbulente même.
Oh, je n'ai plus l'âge de la turbulence. Mais enfin, après une vie un peu diverse, c'est le moins qu'on puisse dire, je suis frappé moi-même de voir que la puissance sentimentale a gardé le décor de mon enfance. Et quand j'y retourne maintenant de plus en plus. Je remets, comme on dit, les pas dans les pas anciens, je retrouve, en dépit de la transformation évidemment très grande également du décor familier de mon enfance, je retrouve des sensations, des sentiments très émouvants et qui font que, paradoxalement, ayant bouclé la boucle, à l'heure actuelle, je me retrouve avec un âge hélas avancé dans la situation d'un enfant qui voudrait renaître avant de disparaître.
Oui, mais moi je suis frappé justement par votre vigueur. Je l'ai dit tout à l'heure et je l'ai fait exprès, j'ai dit 1903, votre date de naissance, vous avez donc 77 ans, et vous avez vraiment la vigueur totale. Alors, les années ne pèsent pas sur vous, c'est le fait de l'enthousiasme, de la foi, d'une chaleur pour demain.
Je ne peux pas vous le dire, j'ai jamais été malade. Par conséquent, aucun médecin n'a
jamais, jamais
éclairé. Jamais. Un médecin n'a jamais pu m'éclairer.
Vous n'avez jamais pris de médicaments?
Ah non, surtout pas. Non. Ni de piqûres. D'ailleurs, le souvenir de mon père m'en aurait empêché et considéré qu'à partir du moment où il fallait se transformer en pharmacie, ça voulait dire qu'on avait perdu son équilibre. Je crois que c'est tout à fait vrai. Quelquefois maintenant, je m'amuse d'ailleurs quelquefois d'entendre des gens qui protestent contre la pollution extérieure et qui sont eux des pharmacies ambulantes. Et jamais chez nous, on ne prenait de piqûres. Quand on avait le rhume, on se couchait dans un lit, on remontait les couvertures jusqu'où on mettait deux édredons, on buvait un peu de rhum, on se faisait suer. Le matin, on était censé être guéri. Puis si on n'était pas guéri, on était, mon Dieu, considéré comme tel, et on repartait au travail sans difficulté.
Je voudrais savoir si ce que deux hommes qui nous ont quittés, qui étaient deux hommes de grande valeur, est vrai. Ce qu'ils ont dit, si ce qu'ils ont dit est vrai. Le premier est Pierre-Vincent Ponté, le deuxième est Maurice Clavel. Le premier, Vincent Ponté, disait que vous étiez un semeur d'idées, et l'autre, Maurice Clavel, qui avait également de la force, disait que vous étiez une force de l'esprit et de la nature. Alors c'est peut-être ce qui vous a sauvé, non?
Oui, sauvé. Je n'ai pas eu besoin d'être sauvé. C'est ce qui m'a peut-être entretenu, comme vous voulez bien le dire.
On a toujours besoin d'être sauvé, quand même.
Je crois très sincèrement que la santé physique est très souvent Pas toujours. Il y a malheureusement des gens qui ont des maladies dont ne sont pas responsables. Enfin, pour un homme normalement équilibré et qui n'a pas de ces atteintes extérieures contre lesquelles, hélas, on est trop souvent désarmé, je crois que l'activité intellectuelle, l'activité physique également, celle de l'imagination, le fait de s'enthousiasmer, de s'intéresser à tout et à tous, est un élément considérable du maintien de l'équilibre et donc de la santé. Quant à Viançon-Ponté, c'est un ami perdu, hélas, nous le pleurons maintenant depuis l'année dernière. Il avait sans doute pour moi beaucoup d'indulgence, mais enfin, il était, je dois le dire, tout à fait amicalement intéressé par le fait que je m'étais intéressé effectivement à beaucoup de choses, j'avais essayé chaque fois que quelque chose me plaît. J'ai besoin, c'est un besoin presque physique, de le communiquer, de l'organiser, d'essayer de le faire connaître et de le faire...
Partager. Mais aujourd'hui encore, vous êtes un semeur d'idées, vous avez envie d'être un semeur d'idées.
Je vais m'arrêter comme ça, c'est pas moi qui m'arrêterai.
Parce que c'est extraordinaire, votre vie, vous avez à peu près tout fait. Et je m'étonne quand même que vous n'ayez jamais été ministre. On vous l'a demandé, vous êtes passé à côté, comme si vous aviez peur quand même de la responsabilité suprême. Ou alors ça vous ennuyait, ou non, alors vous méfiez de la politique et vous auriez raison.
Je n'ai jamais eu peur des responsabilités, et précisément je pense que ce qui caractérise les fonctions dont vous parlez tout à l'heure, c'est qu'elles ont été, et peut-être sont-elles encore pour beaucoup, dénuées précisément des vraies responsabilités. On fait un peu de la dentelle autour des choses importantes, on va au jour le jour, on a peur des résolutions à long terme parce qu'elles engagent électoralement dans des conditions qu'on redoute. Alors on va un peu au jour le jour, on prend un peu les choses qui passent, c'est ce que Briand disait, la politique du chien crevé au fil de l'eau. Et en ce qui me concerne, je pense que ça aurait été intéressant peut-être à certaines époques, après la guerre, d'avoir une parcelle de pouvoir. À cette époque, quand on est jeune, on a toutes les illusions. Mais encore aurait-il pu avoir pour au moins 4 ou 5 ans le temps de faire quelque chose. Or, les ministères duraient 4 ou 5 mois. Alors, dans ces conditions, ça consiste à être ministre pour épater sa concierge avec une voiture à cocarde pendant 3 jours, après avoir 4 mois d'emmerdement, et puis ensuite, tout le reste de sa vie, mettre sur une carte de visite qu'on est ancien ministre. C'est une petite consolation qui est mince à côté de celle d'avoir perdu sa joie de vivre, sa vie, vivre en famille, pouvoir se promener le dimanche, de la chasse, enfin, vivre comme une personne naturelle plutôt que comme un fantoche officiel.
Mais sur votre carte de visite, qu'est-ce que vous marquez?
Rien.
Non, on pourrait marquer avocat. Et vous l'avez été auprès d'André Caillat, et puis vous avez quitté également le barreau.
C'est la guerre qui a interrompu
cette carrière. On peut y revenir quand même.
Oui, mais je n'ai
pas... J'ai oublié de dire aussi que vous avez été journaliste.
Hein. Oui, avant la guerre, j'étais avocat. Mais avant la guerre, ce n'était pas la même chose. Quand on était jeune avocat, on était presque nécessairement intéressé également par le journalisme, la littérature. On faisait des réunions publiques. C'était des réunions publiques qui étaient beaucoup plus nombreuses, ardentes qu'aujourd'hui. Ce n'était pas, comme c'est trop souvent maintenant, des espèces de messes dans lesquelles le grand prêtre vient officier devant un public de fidèles, n'est-ce pas, qui l'écoute avec ravissement. Puis après quoi, on sonne la sortie, tout le monde rentre chez soi.
Vous voulez dire par là que les gens d'aujourd'hui ont moins de courage?
Non, on a substitué le rite à ce qu'était la spontanéité, n'est-ce pas? Tout maintenant s'inscrit dans des organisations, y compris les idées politiques et la sentimentalité. À cette époque-là, on laissait un peu le tempérament s'exercer, et comme on n'avait pas tous le même tempérament, de temps en temps, ça donnait évidemment des confrontations un peu animées, mais on n'était pas plus mal. Alors on vivait d'une façon très intense, plaider l'après-midi, ensuite on allait au journal, le soir on faisait une réunion publique, comme tout ça creuse, après on allait manger un petit morceau, on rentrait un peu tard, on se levait un peu tôt, et on continuait comme ça, on ne se portait pas plus mal.
Bon d'accord, Philippe Lamour, vous ne pouvez pas mettre une indication, quelle qu'elle soit, sur votre carte de visite, mais il y a quand même quelque chose que vous avez fait dans la vie qui a dépassé les autres. Sans doute est-ce le Languedoc, enfin ce que vous avez fait, du moins pour l'aménagement du territoire.
Bien vous savez, après la guerre...
Ou alors le syndicalisme agricole.
Comme je l'explique un peu dans mon livre, pendant la guerre, j'ai un peu changé, beaucoup changé. Avant la guerre, il faut le reconnaître, quand on était d'abord plus jeune, et puis c'était un autre état d'esprit, peut-être était-on moins réfléchi. On s'emballait un peu pour toutes les fanfares qui passent, et puis pendant la guerre, le malheur, la honte aussi de la défaite qui m'a beaucoup marqué, qui était pour moi un tournant décisif et une blessure qui était très difficile de cicatriser. Alors à ce moment, pendant les guerres, j'ai changé un petit peu, j'ai changé de peau. Et je me suis dit qu'après la guerre, quand il est arrivé un pareil désastre de la part de notre légèreté à tous, légèreté du gouvernement et peut-être aussi manque de vigilance de l'opinion. Alors j'ai pensé qu'il fallait faire quelque chose de plus positif, contribuer même modestement à refaire ce pays, à lui rendre une épine dorsale, et en tout cas à lui rendre un visage convenable qu'on puisse regarder dans les yeux. Alors je me suis engagé presque malgré moi dans le syndicalisme agricole pour une raison simple, je le raconte d'ailleurs, à savoir que après la guerre, le syndicalisme de la guerre c'était le corporatisme de Pétain, ils étaient tous en prison. Alors nous sommes tous réunis à Paris entre gens qui ne se connaissaient pas pour constituer une nouvelle organisation agricole. Et puis, il y avait naturellement des remous, des mouvements divers. Comme je la vois un peu forte, on m'entendait un peu plus que les autres. Et mon Dieu, à ce moment-là, on a dit, celui-là, puisqu'il se fait entendre, on va le mettre secrétaire général provisoire. Il est devenu définitif. Je me suis engagé dans un syndicalisme agricole qui, à l'époque, a été une aventure merveilleuse. En effet, en quelques années, on a modernisé l'agriculture. Dans les 5 premières années qui ont suivi la libération, on a passé le nombre de tracteurs de 25 000 à 300 000. On a triplé la consommation des engrais. Et on s'est engagé dans une voie moderne.
Mais c'était un hommage à votre père. C'était un souvenir de votre enfance, de ce que vous aviez été et de ce que vous n'étiez plus.
J'avais toujours eu la nostalgie de mon enfance et de ce qu'avait été non seulement ma vie, mais celle de mes parents, de mes grands-parents qui étaient agriculteurs. J'avais toujours la nostalgie de la vie à la campagne, c'est vraiment ce qui me plaît. Ce qui me plaît, c'est de vivre avec la terre, de voir des choses toutes réelles, toutes concrètes. Semer puis voir pousser, ça c'est du solide, c'est du réel, c'est pas contestable, ce ne sont pas des choses qui se discutent, ce n'est pas de l'idéologie. J'avais cette nostalgie. Si avant la guerre je n'avais pas suivi cette voie, c'est que je n'en ai pas eu la possibilité. Nous étions 3 garçons à la maison, et selon d'ailleurs une vieille tradition du nord de la France, les cadets, on se relie aux traditions anciennes, les cadets étaient priés d'aller chercher ailleurs leur vocation et leur destin, de façon à ne pas arriver à diviser trop le patrimoine. Alors c'est comme ça qu'on est. Et quand j'ai pu y revenir, je dois dire que je suis revenu sans hésitation, avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de joie. Et le syndicalisme agricole a été pour moi alors une école extrêmement éloquente, en ce sens que j'ai vu comment une chose aussi réelle que l'activité agricole pouvait, lorsqu'elle se transférait à l'échelon du national, auprès de la politique, dans une espèce de vue plus théorique, comme elle allait aussi vite que le reste vers la voie de l'abstraction, des idées de caractère théorique, sans application pratique utile. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque l'occasion s'est présentée de transférer toutes ces idées générales dans la voie pratique de l'aménagement d'une région, j'ai abandonné ce syndicalisme peut-être un peu trop général, un peu trop théorique, un peu trop près de la politique pour essayer de réaliser quelque chose de concret, de changer quelque chose sur le terrain pour changer quelque chose dans la vie des autres.
Philippe Lamort, vous avez donc écrit votre vie, vous avez fait le récit de toutes ces années, et vous avez donné à ce récit le titre « Le cadran solaire ». Et lorsque vous êtes revenu dans votre jardin, le jardin du père Évrard plus exactement, vous n'avez plus trouvé le cadran solaire. Et puis vous vous êtes quand même rappelé l'inscription qui était dessus « Chaque heure blesse, la dernière tue ». Et c'est le souvenir, et c'est le passage. Et j'ai l'impression en plus qu'il y a, même si je parle de vigueur comme je parlais tout à l'heure, il y a quand même comme une inquiétude. Et vous dites à un certain moment, et cela m'a frappé, les plus belles années sont passées. Enfin, comme si vraiment tout était derrière vous.
Quand on est enfant...
Ce n'est pas tout à fait vrai.
Quand on est enfant, assez curieusement, il y a tout de même des impressions qui vous restent. Ce ne sont pas nécessairement celles qui auraient été les plus frappantes aux yeux des tiers, mais qui vous restent comme des souvenirs, comme un souvenir comme celui-là. Malgré moi, j'avais vécu cette enfance avec cette nostalgie d'une famille sans femme, sans mère, sans sœur, et un enfant sent toujours qu'il manque quelque chose. C'est pas très bien quoi, mais qu'il manque quelque chose. Alors, de sorte que j'ai ce vieil homme qui avait une grande barbe blanche, qui était un jardinier vraiment pour...
Votre
pour gazette rustica, n'est-ce pas? Le père Évrard, il avait une barbe blanche avec une tache de mildiou au milieu qui était la nicotine de sa perpétuelle cigarette. Alors, ça me frappait, cette inscription, que je comprenais mal. Chacune blesse, la dernière tue. Et je demandais ce que ça voulait dire. Et en province, et surtout à cette époque, on avait la pudeur de la mort, vous le savez. On ne parlait pas aux enfants de ces questions de la mort. Alors je me demandais, je dis, il y a quelque chose là, mais je ne comprends pas très bien ce que c'est. Et ensuite, évidemment, j'ai compris, comme tout le monde a compris. Et ce que vous trouvez à la fin du livre, eh bien, vous le verrez vous-même, c'est tout de même... Pauvre, on est pour une tristesse, mais non, Il faut rester parfaite sérénité devant tout. Comme disait mon grand-père, on est d'une famille que personne n'en réchappe. Par conséquent, on se fait très bien cette idée. Ne croyez pas que l'obsession de la mort accompagne les gens de mon âge comme quelque chose qui vraiment les empêche de vivre, non. Mais malgré tout, il y a le besoin de se résumer, de se retrouver, de retrouver une espèce d'unité dans ce qu'a été cet être fugace que nous sommes en passant sur la Terre, de retrouver quelque chose qui vous relie à l'origine, de retourner vers la matrice originelle. Et alors, quand je suis retourné dans mon pays après cette guerre, j'ai cherché ces souvenirs et je n'ai trouvé que des ruines. De sorte que toute cette enfance et cette énigme de l'enfance qui n'avait jamais été résolue dans mon esprit, les traces même en avaient disparu. Alors, on prend d'autant plus conscience du caractère malheureusement fugace de l'existence humaine.
Donc vous êtes donc passé du nord au sud, du nord où vous êtes né au sud où vous êtes. Et vous dites d'ailleurs que dans votre enfance, vous ne connaissiez pas la montagne, ou vous ne la connaissiez que par les images qui illustraient les livres d'école, les toiles cirées des tables de cabaret. Oui. Et c'est vrai.
Oui, oui. Vous savez, à ce moment-là, il y avait des...
Moi, personnellement, moi, dans ma montagne pyrénéenne, je ne connaissais pas la mer.
Oui, c'est ça, oui. Moi, je connais la mer à Malo-les-Bains, parce que c'était une espèce de rite également, que les familles de Roubaix, de Tourcoing invitaient les enfants à la mer. À Malo-les-Bains, c'était une immense plage mélancolique et belle, d'ailleurs, ayant une beauté profonde, avec une mer verte, non pas une mer bleue, les dunes, etc. Mais ce que je ne connaissais pas, c'était la mer du Sud, la mer bleue, la mer Méditerranée. Et j'ai attendu 25 ans pour avoir la révélation de ce que pouvait être une mer qui ne soit pas une mer glauque, un caractère un peu tragique et aussi un peu une mer marchande, si vous voulez, plus que orientée davantage vers la navigation, le travail, que vers le loisir. La mer loisir a été une découverte tardive. Quant à la montagne, oui, ces toiles cirées nous sauvaient parce qu'on y voyait des tyroliens, des chasseurs tyroliens près de la montagne, une montagne très pointue, avec beaucoup de neige dessus, puis des chiens qui tiraient la langue, avec son sac tyrolien sur le dos, fumant des pipes. C'était pour nous, quand on était enfant, un autre monde, une espèce de nostalgie, ces pays. Nous ne connaissions, nous, comme montagne, que les crassiers des mines du Nord, n'est-ce pas? C'était les seules élévations qui pouvaient se trouver dans le relief local.
Vous êtes rattrapé aujourd'hui?
Ah oui, oui, largement.
Vous faites toujours de longues randonnées ou...
Toujours, nous continuons toujours. Vous me demandiez quel était le secret de la santé. Je crois que c'est de ne pas fumer, d'abord, ça c'est essentiel à mon avis. Et puis, ne pas faire des sports excessifs à partir d'un certain âge, mais continuer à exercer son corps selon les raisons naturelles pour lesquelles il a été fait. Marcher, courir, grimper, non pas pratiquer des sports d'une violence artificielle. Je crois qu'en continuant à vivre et à marcher, comme on nous a donné des jambes pour cela, mais on entretient sa santé. De sorte que depuis des années et des années, j'ai parcouru à pied avec ma femme des kilomètres en France et à l'étranger d'ailleurs. Nous avons fait le tour de l'Autriche. Nous avons marqué les sentiers de randonnée depuis le Beaujolais jusqu'à Perpignan, depuis Saint-Esprit jusqu'à Saint-Flour et presque jusqu'en Dordogne. Et ensuite fait la grande traversée des Alpes, depuis le lac de Genève jusqu'à Menton.
Et ce n'est pas fini?
Ah non, c'est pas fini, on continue. Maintenant, il y a des variantes.
Philippe Lamour, vous avez souffert sous trois républiques. Et j'ai cru comprendre tout à l'heure que vous estimez que les hommes politiques d'aujourd'hui ne valaient pas ceux d'hier. Quels sont les hommes qui ont marqué le siècle, à votre avis?
Mais c'est-à-dire qu'ils ne valent pas ceux d'hier...
J'ai cru comprendre ce que vous disiez.
Oui, bien sûr. Avec le souvenir, évidemment, on a tendance à idéaliser, peut-être à simplifier. Mais j'ai tout de même, en effet, le sentiment que ce sont les personnalités ont changé. Et à quoi je l'attribue, je vais vous le dire. Ceux d'hier, je ne sais pas ce qu'ils étaient, c'était vraiment des grands hommes ou pas. Mais en tout cas, ils étaient eux-mêmes. Ils gouvernaient eux-mêmes, bien ou mal, mais ils gouvernaient eux-mêmes dans l'autonomie de leurs décisions et de leur volonté. Et maintenant, on a cette impression que l'homme d'État n'est plus que l'interprète d'une vaste camarilla d'experts, de conseillers, de jeunes gens qui savent tout avant d'avoir rien appris, qui font des dossiers, se contredisent, passent des notes, et qu'à la fin, alors on voit arriver un pauvre homme d'État qui arrive sur l'écran de la télévision et qui récite de son mieux une espèce de composé de transactions entre toutes ces suggestions diverses et contradictoires. On n'a plus le sentiment qu'on avait que le père Briand qui lui arrivait, et puis en trois mots, il s'imposait, il avait tort ou il avait raison, mais en tout cas, il gouvernait. Je ne parle pas de Poincaré qui le faisait, lui, d'une façon désagréable, alors qu'on aurait pu le faire de façon agréable, mais même des gens comme Tardieu avant la guerre, qui étaient des gens qui avaient un tempérament qui était assez curieux, si vous le voulez, assez fantaisiste, c'était tout de même des gens qui étaient des hommes d'État. Alors, je me trompe peut-être, mais j'ai le sentiment que ce n'est pas du fait des hommes, c'est du fait d'un système qui est en train de nous encombrer. L'État devient abstrait, n'est-ce pas ? On est en train de déviriliser, on est en train de dessécher ce pays en le noyant sous la statistique. Dans toute cette statistique, dont je ne sais plus, quelqu'un a dit que c'était comme le bikini, que ça donnait beaucoup d'idées, mais que ça cachait l'essentiel. Bon, eh bien, on a l'impression que maintenant on est dans les chiffres et que le malheureux citoyen, on a à tout instant l'air de lui dire « Taisez-vous, vous n'y connaissez rien, c'est nous qui sommes les experts, nous sommes en démocratie, mais vous avez tous les droits sauf donner votre opinion ». Alors, je crois qu'il y a quelque chose d'un peu desséchant dans tout ça.
Oui, parce que vous êtes quand même très sévère, et je crois que vous êtes surtout très lucide. Lorsque vous écrivez « Les temps qui viennent seront rudes, la civilisation du monde occidental risque de périr des conséquences de son propre succès. Il ne faut jamais désespérer, mais il faut sortir du trou. » C'est donc que nous sommes dans un trou. Certains. Dans le trou, mais c'est le monde qui est dans un trou.
C'est surtout le monde occidental qui est dans un trou. Et je crois, peut-être c'est une de mes dernières idées, c'est peut-être pas la meilleure, je n'en sais rien, ça me paraît l'évidence. Je crois qu'à l'heure actuelle, on est en train, n'est-ce pas, de se masquer des réalités extrêmement lourdes et qui pèseront lourdement sur le destin de tout le monde occidental. On s'amuse avec des petits incidents hebdomadaires, on remplit les journaux d'un tas de petites choses qui sont valables pour la semaine, et on ne voit pas l'essentiel, c'est que pendant ce temps-là, nous avons un monde développé, chaque jour de plus en plus riche, accumulant de plus en plus de privilèges, avec une population de moins en moins importante qui est en état de dégradation démographique, devant un monde trois fois plus peuplé, qui est en état, au contraire, d'explosion démographique de plus en plus grande, dont les statistiques des Nations Unies montrent que la diminution des ressources alimentaires est proportionnelle à l'augmentation de la population. Et je me dis, et je crois que c'est l'évidence même, qu'on ne pourra pas, c'est une question de poids des choses, de principe des vases communicants, si vous le voulez, on ne pourra pas éternellement voir l'un en face de l'autre une masse immense d'indigents et d'affamés qui ne peuvent pas satisfaire leurs besoins élémentaires devant une minorité qui est une minorité de repu.
Ça craquera donc.
Ça craquera. La question de savoir si ça craquera d'une façon tragique ou si au contraire, on arrivera tout de même à un mouvement de raison lorsque de premiers événements tragiques y contraindront. Car malheureusement, non seulement en France, mais en Occident, on ne se réveille que vraiment à la dernière minute, et quand ce que le raisonnement avait démontré, mais qu'on ne voulait pas voir un peu par lâcheté, par désir de continuer à vivre tranquille, à ne pas s'inquiéter. Mais il faut vraiment qu'il y ait un événement, un premier événement tragique pour qu'on se réveille.
Mais vous estimez qu'il y a de grandes erreurs parce que vous écrivez « À travers le temps et l'espace, certaines grandes notions ont toujours régi la vie des hommes. » Et je veux dire que ces grandes notions, sans doute, ont été gommées. Et je voudrais savoir quelles sont pour vous les grandes notions qui régissent la vie des hommes et qui devraient aujourd'hui régir notre monde.
Ces grandes notions sont malheureusement toujours les mêmes.
Parce qu'il y a quand même une contradiction entre la notion d'autorité et la notion de liberté. Et on ne s'en sort pas.
C'est un problème qui est vieux comme le monde. Bon, mais dans certaines périodes du monde, on a essayé de les résoudre. Il est évident que sans cela, l'homme étant un animal déraisonnable, n'est-ce pas, il oscille de la liberté à l'autorité sans trouver la possibilité de se fixer dans une bonne moyenne. Depuis que l'histoire existe, on a toujours vu que les excès de la liberté mènent à l'anarchie. Elle suscite par conséquent la réaction autoritaire. Le caractère autoritaire lui-même, son caractère autarchique et par conséquent également l'arbitraire qu'il amène, amène aux excès également de la tyrannie, laquelle suscite la réaction de... Alors, le monde vit toujours dans une situation dramatique, faute de pouvoir trouver ce qui devrait être possible, un équilibre valable entre la liberté et l'autorité qui évite l'abus qui va à l'anarchie d'un côté et qui va à la dictature de l'autre.
D'ailleurs, vous le dites bien, à un certain moment dans votre livre, dans le cadran solaire, l'homme n'est pas sorti des cavernes.
Non, il a changé de décor de caverne.
Enfin, il a pourtant tous les moyens aujourd'hui du progrès pour être un peu différent, non ?
Oui, c'est malheureux, même il reconstruit des cavernes maintenant. Ouais. Et malheureusement, des cavernes superposées. Oui. Des cavernes qui ne sont quelquefois que des cages à lapins. Alors, il y a une espèce de retour, évidemment, aussi à l'isolement. On n'est jamais aussi isolé que dans une grande ville, n'est-ce pas ? Nous, en province, nous vivons dans des villages où tout le monde se connaît. Ça a des avantages et des inconvénients. Ça permet de se débiner en famille d'une façon particulièrement intense. Mais enfin, à côté de ça, quand on voit qu'à Paris, on peut vivre dans le même clapier, glisser, n'est-ce pas, aux divers étages d'un clapier, sans même se rencontrer autrement que dans l'escalier et sans se connaître. Il est absolument extraordinaire de voir que l'homme est revenu à la caverne anonyme, n'est-ce pas, dans laquelle il s'enferme avec une espèce d'égotisme qui l'empêche de s'ouvrir sur le monde.
Et pourtant, et un mode de vie, ce n'est pas un droit acquis.
Non, c'est un droit. Il n'y a pas de droits acquis.
Non.
Non. Les droits qu'on a acquis, il faut les défendre. Et si on ne défend pas ces droits, immédiatement, ils sont compromis. Il n'y a pas d'exemple, la nature a horreur du vide.
Le moineau qui chante, par exemple, défend un droit.
Oui, l'animal lui-même, n'est-ce pas, il organise la défense du territoire, n'est-ce pas. Le chien, autour de la maison qui lui est familière, n'est-ce pas, et il marque sa frontière. Vous savez par quel moyen, d'ailleurs, le fait le chien, n'est-ce pas. C'est en urinant un peu tout autour de... Le rossignol qui chante, on croit qu'il chante pour charmer.
Ah, vous dites que ce n'est pas pour son plaisir que le rossignol chante.
Il chante pour avertir qu'il est là et prêt à défendre son nid. Par conséquent, il a son territoire et qu'un autre ne doit pas venir dans ce territoire. Alors, nous n'avons peut-être pas de conception aussi élémentaire, si vous le voulez, mais malgré tout, qu'il s'agisse d'un pays, qu'il s'agisse d'une famille, qu'il s'agisse d'un homme, il n'y a jamais rien qui soit définitivement acquis. Il n'y a pas d'oreiller sur lesquels on puisse s'endormir. Le monde est ainsi fait qu'on ne progresse qu'en avançant. Et en défendant ce qu'on a acquis, en conquérant ce qu'on veut acquérir.
Alors vous dites aussi que le courage est la loi de l'homme, et vous seriez même tenté d'ajouter que l'homme de ce monde-ci n'est pas tellement courageux.
Je crois que c'est un des points les plus graves de notre civilisation, c'est que nous avons accumulé tant de confort, tant de goût du loisir, tant de... Je ne suis pas contre, bien au contraire, après tout, l'homme vit à la recherche du bonheur. Seulement on peut rechercher le bonheur sans perdre la virilité. Et à l'heure actuelle, on a un peu l'impression qu'on sacrifierait ce goût du bonheur, très légitime, cette recherche du loisir, à ce qui est sa compensation normale, c'est-à-dire le courage nécessaire pour en défendre les conditions, la possibilité. Et on a un peu le sentiment qu'en s'endormant dans un confort, en ayant perdu cette vigilance, on peut demain voir détruire l'ensemble de cette société à laquelle on est attaché, dont on attend précisément ses satisfactions du bonheur, donc compromettre son bonheur, celui de sa famille, celui de son peuple, parce que on aura, au moment où il le fallait, manqué de quoi. Alors je pense que c'est le courage qui est la loi de la vie des individus, la loi de la vie des sociétés et par conséquent des nations.
Philippe Lamour, vous avez été le témoin de ce siècle. Comme on le disait tout à l'heure, vous avez été avocat, journaliste, vous avez participé à la guerre d'Espagne, vous l'avez vu de près, vous avez été ensuite l'un des artisans du syndicalisme agricole, vous avez participé à l'aménagement du territoire, vous avez donc vécu, vous avez fréquenté les plus grands. Mais dans une seule vie, vous avez aussi installé une femme de promotion humaine, c'est-à-dire vous, le fils d'agriculteur, vous avez installé une famille avec des enfants, des petits-enfants et toute une vie pour demain. Et tout cela se fait dans une vie, vous l'aurez fait dans votre vie. Vous pensez qu'on peut revenir en arrière après, que des petits-enfants reviendront à la terre, qui seront agriculteurs et peut-être même, quittant le sud, reviendront-ils dans le nord?
Je ne crois pas qu'ils seront les seuls. Je pense que l'évolution...
Est-ce une nécessité?
Ce sera une nécessité pour l'ensemble de l'Occident. À l'heure actuelle, nous ne pouvons pas continuer à penser que nous allons pouvoir maintenir une vie de caractère purement urbain sans que nous ayons sauvé les valeurs essentielles qui permettent cette vie urbaine. Il est certain que la France en particulier, qui est le pays le plus rural d'Europe, le seul pays agricole qui puisse vraiment participer d'une façon assez large avec les États-Unis à la possibilité d'apporter une aide alimentaire sérieuse aux pays indigents qui, qu'on le veuille ou non, menacent son indépendance à plus ou moins long terme. Il est extraordinaire que dans ce pays rural, qui n'a pas d'énergie, qui importe toute son énergie, qui importe la plupart de ses matières premières, qui importe de la main-d'œuvre, car nous avons autant d'immigrés que de chômeurs. Ce pays, par conséquent, qui n'a qu'une vocation industrielle avec des éléments tous apportés de l'extérieur, n'est pas compris qu'il devait donner un relief beaucoup plus grand à l'exploitation de ce qui est sa richesse fondamentale et propre, qui n'appartient qu'à lui, qui lui assure l'indépendance, c'est-à-dire le sol. Nous sommes le pays le moins peuplé d'Europe, 96 habitants au kilomètre carré, alors que l'Allemagne a 235, ainsi que l'Angleterre et les Pays-Bas près de 400. Nous sommes le pays le plus grand d'Europe et le moins peuplé. Nous avons un territoire rural qui couvre 94% de la surface du pays. L'ensemble des routes, des villes, ça c'est 6%. Eh bien, ce territoire rural a été dépeuplé, il est donc sous-exploité. Depuis la guerre, 3 millions de familles paysannes ont quitté la terre pour venir dans les villes. Et maintenant, sur ces 3 millions de familles qui sont venues dans les villes, c'est peut-être là qu'il faut chercher le million de chômeurs. Alors je pense que si nous sommes conscients de ce qu'est la substance même la plus riche de notre pays, eh bien, nous découvrirons que nous sommes en Europe le pays qui est voué à pouvoir produire dans des conditions qui aideront non seulement les autres pays européens, mais qui permettront d'entamer une politique de solidarité avec les pays dont l'indigence nous menace. Alors je crois qu'effectivement, je verrai en ce qui me concerne avec beaucoup de satisfaction une partie de mes familles revenir dans ce monde rural qui a besoin de gens courageux, intelligents, imaginatifs, ayant des initiatives et qui ne se considéreront pas comme des êtres inférieurs parce qu'ils ont échappé au clapier de ville.
La terre, c'est vrai, n'est pas avare, mais peut-être que ceux qui reviendront ne trouveront pas toutes les terres en un seul lot. Car je dois dire que, et vous êtes occupé de l'aménagement du territoire, on a beaucoup divisé et j'ai peur de dire saccagé.
Il ne faut pas exagérer. On ne fait rien qui n'ait que des avantages. Il y a toujours des inconvénients. Ou on n'entreprend aucune action qui n'ait pas quelques bavures, comme on dit maintenant. Vraiment, ce qui importe, c'est que la masse des avantages balance largement la masse des inconvénients. L'aménagement du territoire, bon, on peut le critiquer. Mais s'il n'existait pas, est-ce que vous imaginez ce que ce serait ? Que la pagaille et l'anarchie dans lesquelles nous serions. L'urbanisme, on a raison de le critiquer, il est quelquefois lui aussi abstrait, un peu raide, un peu, inhumain. Mais s'il n'y en avait pas, qu'est-ce que ça donnerait ? Regardez ce qu'a donné l'agrandissement des faubourgs de Paris, en dehors des fortifications de Thiers, dans l'anarchie du XIXe siècle. Alors je crois que tout de même, il ne faut pas exagérer, l'aménagement du territoire a tout de même donné les voies générales, en tout cas les principes généraux, dans lesquels peut s'inscrire un équilibre suffisant entre la vie citadine et industrielle, enfin l'industrie, et une meilleure exploitation des richesses du sol, quelles qu'elles soient, pas seulement agricoles, mais de l'ensemble des richesses du sol. Alors je pense que, étant donné la diversité des régions en France, la France n'est pas un pays homogène au point de vue géographique, n'est-ce pas ? C'est l'aboutissement du continent euro-asiatique, n'est-ce pas ? C'est une espèce de cap de l'Europe qui a aussi bien le prolongement des plaines du Nord qui viennent de l'Oural, du massif hercynien qui va jusqu'au pont du Perche, n'est-ce pas ? Et des bordures méditerranéennes qui fait que la culture dans le sud de la France ressemble davantage à celle du sud de l'Italie et de la Grèce qu'à la culture des betteraves à Saint-Quentin ou à Hasbrouck. Alors ce pays très divers dont la diversité est une richesse, n'est-ce pas ? Présente par conséquent des possibilités qui ne sont pas toutes jugeables, appréciables avec la même jauge. Il faut voir dans chacune de ces régions quelle est la vocation particulière, quelles sont les disponibilités en richesse potentielle du sol et du sous-sol, et appliquer une politique solide et volontaire et à long terme à leur exploitation. Autrement dit, je vous dirais, dans la première période de l'aménagement du territoire, il fallait d'abord redonner les cadres généraux nationaux du territoire. C'était l'époque dans laquelle il fallait essayer de compenser le monopole de Paris par ce qu'on appelait les métropoles d'équilibre, essayer de rendre aux grandes métropoles provinciales une partie des qualités ou des activités dont Paris avait un monopole exclusif, même en matière culturelle. Puis créer un gros réseau d'autoroutes, créer un réseau aérien, aménager le littoral, la montagne, enfin les loisirs qui prenaient une importance considérable. C'était la première phase, la phase nationale. Ce qui reste à faire maintenant, surtout, c'est dans cette phase nationale, c'est le réseau fluvial, à relier au grand réseau fluvial de Belgique, de Hollande et de l'Allemagne. Mais à l'heure actuelle, avec la crise économique, avec la situation dans laquelle nous sommes, il faut passer une seconde étape de l'aménagement du territoire, qui est l'action régionale, justement. Nous n'aurons peut-être plus les moyens de continuer une vaste politique ambitieuse de caractère national.
Mais il n'y a pas de décentralisation. Mais y aura-t-il l'action régionale ?
Il y a, si, une décentralisation. On a décentralisé la
tout
centralisation.
Tout est à Paris.
Non, on a décentralisé la centralisation. Ouais. C'est-à-dire qu'on a transporté la centralisation parisienne avec un écran dans les régions. Mais vous savez, ça c'est comme la décolonisation. Il faut commencer un jour. On n'est jamais prêt. Quand on parlait de décoloniser, ben non, on dit, pas maintenant, c'est pas le moment, c'est jamais le moment. Mais si on ne commence jamais, on finit jamais non plus. Alors, de même qu'il ne faut pas se faire d'illusions que la décolonisation en Afrique, pendant des années, se baladera dans des conflits de tribus, dans des histoires de dictatures.
Et ce n'est pas fini.
Ben, la régionalisation, écoutez, depuis Clovis, nous avons connu la centralisation, ça fait beaucoup. Ben, non seulement la monarchie l'a gardée, la révolution, on a posé les principes, et Napoléon, interprète de la révolution, mais interprète sans nuance, ben, a créé l'État central. Et c'est-à-dire qu'il a donné l'armature à notre vieille centralisation en faisant vraiment une concentration administrative. Alors, quelques siècles de tradition ont tout de même peu habitué les Français à s'administrer eux-mêmes dans leur province. Il faudra très longtemps pour y parvenir. Donc, il faut commencer. Nous avons commencé, les résultats ne sont pas écrasants.
Puis les autres suivront, vous avez fait ce qu'il fallait faire.
Ben voilà, c'est ce que... Quand on avait fait les affaires de Languedoc, je me souviens toujours de Pierre Sudreau, n'est-ce pas, venant nous voir et me disant ce qui paraissait logique, il faut faire quelque chose de semblable dans toutes les provinces. Ben ça, c'est l'aménagement du territoire. Alors il y a des régions dans lesquelles on recueille une audience plus forte de la population, dans lesquelles on a par conséquent une espèce d'initiative plus grande, plus spontanée, d'autres dans lesquelles c'est plus difficile, pour des raisons d'ailleurs qui échappent quelquefois à la bonne ou mauvaise volonté des populations, qui tiennent au relief géographique, à la difficulté des communications. Certains que nos régions du sud-ouest, qui sont à la périphérie non seulement de la nation, mais aux périphéries de l'Europe, loin des grandes concentrations démographiques et économiques de l'Europe septentrionale, auront beaucoup plus de mal à déployer leurs vertus internes que certaines régions qui, elles, sont au centre de grands marchés de consommation. Mais chacune a son problème. Il faut les attaquer avec, dans les conditions où elles se présentent, avec les moyens dont on dispose et avec un objectif à long terme.
Philippe Lamour, vous avez le sens du mot, le goût de la phrase, vous aimez le discours. Et j'imagine, en vous écoutant, en vous regardant, que vous devez regretter un peu de ne pas être avocat et de ne pas avoir poursuivi dans cette voie. Vous auriez été la grande voix, comme vous êtes l'homme d'action et que vous aimez l'insolence, l'impertinence et vous criez un peu plus fort comme les autres, ça aurait été vraiment un régal, non ?
Pour vous.
Bah pour vous aussi, non ?
Pas pour moi. Non, j'ai fait une carrière d'avocat qui m'a beaucoup plu, je n'en dis pas de mal, loin de là, au contraire. D'abord parce que je n'avais pas le choix, j'ai fait mon droit parce que c'était les études les moins longues et les moins chères à l'époque. Je n'avais pas les moyens de mieux faire. Je me suis inscrit au barreau, j'avais bien réussi pour un homme de mon âge. Parce que j'ai plaidé des affaires très intéressantes, au cours d'assises et ailleurs. Des affaires comme les affaires Seznec, Stavisky, Bonny, tout ça, c'était très intéressant.
Vous en gardez de bons souvenirs.
Un très bon souvenir. Et surtout, je garde un bon souvenir d'une profession dont je dis qu'elle est, au contraire, d'une réputation qu'on lui fait quelquefois, très bénéfique pour la préparation de l'esprit et la préparation du travail. Être avocat, ça consiste essentiellement à savoir classer des documents, les interpréter, les présenter. Il faut apprendre à convaincre. Il faut convaincre un juge qui ne sait pas de ce dont il est question d'un problème que vous-même, vous ne connaissiez pas 8 jours avant et que vous expliquez mieux que le ferait le client qui, lui, se perdrait dans des complétives et dans des commentaires. Alors, apprendre à convaincre, eh bien, dans l'époque contemporaine, c'est une vertu essentielle. Nous passons notre temps à plaider. Vous vous plaidez ici en ce moment, vous plaidez avec moi.
Nous, je fais plaider les autres.
Et vous faites plaider les autres. Bon, on s'explique que ce soit l'homme politique qui plaide devant le Parlement ou qui va plaider à Bruxelles ou l'industriel qui plaide pour avoir une licence ou pour avoir une exemption fiscale. Tout le monde doit convaincre. Donc c'est une profession qui apprend l'une des qualités les plus importantes de l'homme contemporain, c'est-à-dire un contact utile et efficace avec son prochain. Donc je ne regrette rien, ça m'a beaucoup appris. Le hasard de la guerre, l'accident de la guerre m'a ramené à la Terre m'a ramené ensuite à l'organisation régionale et l'aménagement du territoire, je continue à plaider. Je plaide pour le Languedoc, je plaide pour l'aménagement du temps, je viens de faire une longue plaidoirie avec nos amis Sudreau, Edgar Faure et Defer pour les voies fluviales, 15 ans de plaidoirie, nous avons gagné il y a 15 jours par le vote de la loi, par le Parlement. Nous
et
avons
vous plaidez pour le monde.
On plaide pour le monde.
Et puis vous dites aussi, avec l'âge, on devient plus indulgent. Je me demande si vous êtes devenu plus indulgent, parce que...
Moi, je le crois.
Ah, vous êtes encore capable d'attaquer. Vous pourriez faire une carrière politique. Je ne sais pas dans quel parti vous êtes, au fait.
Ah, il est temps que
vous êtes toujours socialiste ?
Non, je n'ai jamais été dans aucun parti politique.
Quoi qu'en ce moment, c'est dangereux, on ne sait plus de quel côté il faut
aller. Non, je n'ai jamais appartenu à aucun parti politique, parce que... je pense que ça ne correspond pas à mon caractère. Je supporte assez mal, si vous voulez, toute la servitude très longue, des réunions inutiles, du bavardage, des palabres. Je n'aime pas ça. J'aime bien que la parole débouche sur l'acte, débouche sur des... Alors la politique, essentiellement, c'est attendre, discuter, préparer.
Ne rien faire, c'est ça ?
Pas grand-chose. Pas grand-chose de concret. Oui. Voilà ce que je veux dire. Alors, on dit que j'ai la tendance que vous avez tout à l'heure dans l'esprit, certainement. Mais l'appartenance, non. Alors, évidemment, si vous croyez qu'à mon âge, je peux commencer une carrière politique...
Je vous le demande.
Je ne pense pas que je vais faire trembler le président de la République l'année prochaine. Je ne pense pas, non. Non, vous ne me suggérez pas de me présenter. Non.
Alors, comme il y a ce regard sur le siècle, et vous le portez très bien dans le cadran solaire, parce que je crois que beaucoup s'y reconnaîtront, et ceux qui ont vécu ce siècle, et ceux qui ne le connaissent pas, et ceux qui y viennent... il y a quand même tous ces événements d'aujourd'hui qui mériteraient d'ailleurs que vous alliez un peu plus loin dans un prochain volume, parce qu'il y a et le Cambodge, et l'Iran, et l'Afghanistan, et puis tout ce qu'on ne sait pas, et l'Éthiopie, et vous savez, tous les pays dont on ne parle pas, parce que c'est à la mode de ne pas en parler. Je ne sais pas si vous avez été frappé, il n'y a pas encore eu une manifestation pour ce qui s'est passé dans certains pays, entre Bastille et Nation.
Je crois qu'à l'actuelle, il y a une grande fatigue de l'opinion publique. Je crois que l'opinion publique a été d'abord dérivée de ce qui était ses préoccupations essentielles, ou qui devrait l'être, par toute une série de questions secondaires de la politique intérieure. Et puis, elle a perdu un peu la foi dans les déclarations officielles, qui sont d'ailleurs rarement ratifiées par les faits. Il y a une grande fatigue de l'opinion que je déplore, car encore il y a 30 ans, tout ce que vous avez énuméré, et Dieu sait, hélas, vous n'en avez énuméré qu'une partie,
non, oui, petite
aurait,
partie.
Aurait soulevé un sentiment plus général. Naturellement, il reste toute une élite d'hommes maintenant qui considèrent, ils ont raison, qu'on n'a pas le droit d'avoir une vie qui vous est personnelle, égoïste, et qu'on est solidaire totalement de l'ensemble de l'espèce à laquelle on appartient. Mais ce n'est plus ce que l'on ressentait avant la guerre, une faculté d'indignation qui paraît s'être un peu noyée dans le scepticisme. Et je le regrette profondément. Nous en parlons tous les jours. Pourquoi j'ai moins traité ces problèmes ? Parce qu'ils étaient trop contemporains. Je me suis efforcé dans ce livre, justement, d'évoquer ce qui, avec l'érosion du temps, avait permis une hiérarchie, une sélection de ce qui était vraiment important et de ce qui ne l'était pas. Dans toutes ces générations d'avant-guerre, il a fallu quelques années pour s'apercevoir que le tournant de notre destin entre les deux guerres a été la lâcheté du gouvernement français lorsque Hitler a récupéré la Rhénanie. Ça ne nous est pas apparu sur le moment.
Oui, mais y a-t-il aujourd'hui les mêmes lâchetés dans le monde ? C'est le mot.
Je crois qu'elles se sont
commencerons-nous juger plus tard ?
Elles se sont largement accrues. Oui. À l'heure actuelle, c'est plus maintenant qu'une lâcheté, c'est devenu pour beaucoup de peuples et de nations, malheureusement, un réflexe qui consiste à dire, tout cela durera bien d'autant que nous, n'est-ce pas ? On voit bien la montée des périls, peut-être un jour ils nous atteindront, mais tant pis, vivons encore nos dernières années d'illusion de la paix et du bonheur. Je crois qu'on n'a pas le droit de le faire, parce qu'en le faisant, on se compromet soi. Et quand on est à mon âge, on est encore plus sensible parce qu'on compromet le destin de ceux qui vous suivent, auxquels vous êtes profondément attachés.
Ce qui est grave, à mon avis, c'est le peu d'importance qu'on peut accorder aux grandes sociétés internationales. Enfin, M. Waldheim, qui va en Iran, qui n'est même pas reçu par M. Khomeini, et c'est tout de même quelque chose de très dangereux pour les avenirs.
Ça prouve justement que ces organisations internationales n'ont pas su avoir à l'égard de ces peuples dont l'extrême sensibilité traditionnelle est encore exacerbée maintenant par la misère, l'indigence, l'inquiétude de l'avenir. Ça prouve que ces relations internationales ont opéré avec une sorte de paternalisme de grandes nations portant un jugement et accordant non pas une aide, mais une aumône. Et une aumône dérisoire à ces peuples n'ont pas conquis à leur égard un prestige suffisant pour qu'il y ait un respect spontané. Et il semble que pour ces gens qui sont actuellement dans un état de sentimentalité délirante, eh bien, M. Waldheim, représentant les Nations Unies, pour eux, c'est un politicien occidental comme les autres. C'est très grave.
Philippe Lamour, est-ce bien le siècle que vous souhaitiez ? Enfin, de toute manière, vous ne pouviez pas faire autrement.
Oui, c'est ça.
Mais comme vous avez quand même eu connaissance de ce qui s'est passé dans l'histoire et que vous avez vécu au total et vraiment au plus profond ce 20e siècle, vous pourriez à un certain moment vous dire, tiens, il n'était pas pour moi celui-là. 17e,
oui,
16e, 18e.
On a des nostalgies.
On peut rêver, hein.
Des siècles anciens,
ouais.
Parce qu'on fait une idée fausse.
Ouais.
Moi, j'aime beaucoup les gens qui vous disent dans le métro, n'est-ce pas, j'aurais voulu vivre au XVIIe siècle pour aller à la cour de Versailles. Ben non,
ouais.
Au XVIIe siècle, ils auraient arraché des racines dans un coin du Bourbonnais pour essayer de se nourrir. En tout cas, mes ancêtres, sûrement.
Ils auraient regardé Versailles de loin aussi.
Alors, on a une idée, on se fait une idée du passé. Le temps idéalise le passé. Ouais. Heureusement, d'ailleurs, ça fait quelques images d'Épinal. Si on regardait ce qu'a été la réalité, on serait effrayé, car ce n'est pas seulement d'aujourd'hui que le monde connaît le destin qu'il a connu. Je cite un exemple, je crois d'ailleurs dans le livre, je crois que j'y fais allusion, une chose qu'on ne voit pas, par exemple, qu'on n'apprend pas dans les écoles, depuis la chute de l'Empire romain 350 jusqu'à l'an 1000, on passe rapidement sur l'histoire. Ça fait de même 7 siècles, ce qui nous sépare du 14e siècle maintenant, pendant lesquels on ne sait rien. Et pendant ce temps, l'Europe a perdu par famine et par épidémie la moitié de sa population. Alors, est-ce qu'il fallait désirer vivre à cette époque ? Je ne le crois pas. Je crois qu'il faut prendre l'époque qui est la vôtre, D'abord, comme vous l'avez dit, nous n'y pouvons rien. Ce n'est pas un hasard, c'est le produit déterminé d'une certaine hérédité. Nous sommes là parce que nous sommes vraiment les produits chromosomiques qui devaient apparaître en 1903 pour moi, en 1900 beaucoup plus loin pour vous.
Enfin, vous avez mené jusqu'au bout, en tout cas, une aventure humaine. Et chaque itinéraire de votre vie mériterait une particulière attention. Il vous a fallu sans doute choisir parce qu'on ne peut pas tout dire. Parce que vous commencez, je dois le dire, alors vous commencez comme à la fois comme un historien et comme un écrivain. Ça m'a frappé parce que c'est vrai, les gens de votre génération ont le souvenir tenace et puis ils savent également se rappeler les dates. Les premières pages du cadran solaire, les premières lignes du cadran solaire sont celles-ci. Jules, mon grand-père, n'avait pas eu de chance. Au tirage au sort pour le recrutement de 1859, il avait sorti le plus mauvais numéro, 7 ans de service militaire. Et pour certains, tout a recommencé en 1914.
La classe 11 a fait 8 ans de service militaire.
Mon père, classe 11.
Oui. Ah, vous avez la classe 11, ils ont fait 8 ans. Parce qu'ils ont eu la loi de 3 ans qui a été votée exactement. Pendant qu'ils étaient au régiment. Ensuite, ils ont fait les 5 ans de guerre et puis on les a encore maintenus en occupation pendant un an et demi.
Mais comment vous rappelez-vous votre grand-père? Enfin, vous aviez des notes, vous avez trouvé quelque part.
Ah, mais j'ai connu mon grand-père, Jules.
Il vous parlait?
Il m'a porté sur ses épaules. Oui, il m'a parlé. Bah, lui, il était vraiment l'ancien combattant type. Il était parti faire la guerre de Crimée, il a été au Mexique. Il est revenu, il a été mobile encore au siège de Paris. Alors, vous savez, vous connaissez les anciens combattants. Lui, il était l'ancien combattant type. Et le soir, eh bien, devant le feu, avec le dos au feu et le dos dans les courants d'air, le père Jules, le grand-père Jules, il racontait ses campagnes. Alors, mon enfance a été bercée, ma première enfance a été bercée par les récits de la guerre de Crimée, les récits de cette évocation de ce pays.
Et vous êtes comme lui, vous? C'est-à-dire que vous avez ennuyé toute votre famille avec les récits d'avant? Vous savez, les gens
qui sont pas
là. De mon temps, tout ça.
Non, mais ils ne sont pas là. C'est ça leur avantage, ils ne sont plus là maintenant. Nous étions là parce que nous n'avions d'autre à faire que d'être autour du feu. On n'avait pas de bicyclette, il n'y avait pas d'auto, il n'y avait pas de moyens. Alors maintenant, ils ne sont plus là, on ne peut pas les embêter.
Mais vous devez envier la vie de vos deux filles là, qui parcourent le monde. Un peu, non?
Je les envie, surtout je les admire, parce qu'il faut dire qu'elles sont vaillantes et courageuses, qu'elles font ce qu'il faut, enfin, elles me font plaisir. Parce
Marianne
que,
et Catherine.
Elles ont la même philosophie que moi, je l'espère, je pense, à savoir qu'il faut vivre pleinement sa vie, la vie, la seule vie unique que l'on a, les vivre pleinement, faire ce qu'on a à faire, ce qu'on veut faire, le faire courageusement, et le faire surtout gaiement, joyeusement.
Philippe Lamour, les choses ont un peu changé quand même, parce que je pense à l'épisode, lorsque vous avez passé votre bac, je dois dire que on avait demandé pour vous une dispense, et votre père, vous dites alors, il s'agit d'être reçu, hein. Sinon, gare à toi. Et vous ajoutez, c'est surtout ce que vous ajoutez qui m'impressionne. Ironique. À cette époque, on savait encore élever les enfants.
C'est un peu ironique.
Oui, c'est un peu ironique, mais j'imagine que vous pensez véritablement que les parents aujourd'hui ne sont pas totalement responsables.
Bien sûr. Mon père était le meilleur homme du monde, c'était un très brave homme, mais il considérait comme son devoir, alors que c'était un tendre, il considérait comme son devoir, ayant trois garçons étant veuf, de ne pas à aucun moment faiblir à leur égard, dans leur intérêt. Il voulait faire d'eux des hommes, il voulait faire des hommes viril, capable de se défendre dans la vie, et il se défendait lui-même de sa sentimentalité par devoir, parce qu'il pensait qu'on ne devait pas amollir des enfants qui étaient destinés à affronter les difficultés de la vie. De sorte que c'était une morale différente de celle que nous avons. Nous sommes devenus maintenant stupides avec nos enfants et nos petits-enfants, nous sommes vraiment d'une complaisance, mais ils sont plus heureux que nous, remarquez-le bien. Ils sont plus heureux que nous, mais évidemment, à cette époque, on n'avait pas la faculté de leur donner tout ce qu'on leur donne maintenant. Alors, les parents n'avaient qu'une idée, c'était de faire de leurs enfants des gens qui puissent se défendre dans la vie. C'est pourquoi, quand je dis cette phrase qui est un peu, ne vous y trompez pas, affectueusement ironique, à l'égard de mon très cher, de mon brave père, qui se croyait obligé de me dire ça, et puis aussi, au fond de son cœur, était lui qui, toute sa vie, n'avait jamais pensé qu'il verrait jamais un ministre, il aurait été un peu vexé que le ministre lui en donne une dispense que je n'honore pas.
Oui, mais je pense surtout, Philippe Lamour, que c'est très ironique par rapport aux parents d'aujourd'hui.
Oui,
vous leur dites très clairement, vous démissionnez, vous, aujourd'hui.
Oui, bien sûr, ils démissionnent, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre?
Alors, en 1918, vous avez 15 ans, en 1939, vous êtes déjà dans la vie, il y a la résistance, le nazisme, le communisme, le péténisme, le gaullisme, et puis il y a mai 68, vous aurez couru tout un siècle, et je me demande ce que vous retenez de celui-là. C'était important pour vous, 68, mai 68?
Sur ce point...
Non, de toute manière, je sais que c'est pas important pour vous, mais enfin...
Non, je crois qu'on a fait beaucoup de littérature autour de mai 68. Je le dis dans le livre, d'ailleurs.
C'était une illumination, quand même.
Oui, mais c'est pas antipathique, n'est-ce pas? Mais oui. Ce n'est pas la nouveauté qu'on a dite. Les jeunes gens, il faut de temps en temps qu'ils se donnent un peu de l'air, n'est-ce pas? Alors, quand ils sont sous la chape du conformisme, qu'ils ont tassé de voir et d'entendre raconter toujours la même chose par des gens qui se racornissent et qui vieillissent dans des idées qui ne se renouvellent jamais, de temps en temps, bon, bah, il faut qu'ils tombent la veste et puis qu'ils se donnent un peu d'air. Ils l'ont fait, ça aurait pas été tragique. Après tout, il n'y a pas eu de mort, tant mieux d'ailleurs. Mais enfin, c'était un très grand chahut. Alors, à quoi je suis un peu allergique, je dois le dire, c'est les interprétations un peu délirantes qu'on en donne au point de vue philosophique, on a un monde nouveau, tout ça, pour exagérer, n'est-ce pas? C'était, je crois, un réflexe très sain, n'est-ce pas, contre un conformisme étouffant. C'était pas. Alors, à cette époque, d'ailleurs, il me retombait sous les yeux l'éducation sentimentale de Flaubert, avec laquelle on décrit ce qu'a été Paris en 1848. C'est extrêmement frappant, c'est exactement la même chose. Pourquoi je dis, avec un peu de méchanceté peut-être, ou d'ironie, que je me demande si on n'était pas plutôt un siècle en arrière que 20 ans en avance. Enfin.
Vous avez gardé un peu de votre méchanceté. D'ailleurs, si je vous
poussais,
on pourrait parler par exemple de l'enseignement de l'histoire. Et alors là, vous allez vous déchaîner comme peut se déchaîner Alain Decaux. Vous estimez que l'enseignement de l'histoire, en vrai, c'est n'importe quoi.
C'est plus que n'importe quoi, c'est un mensonge extraordinaire, c'est vraiment une transposition de caractère malhonnête de la réalité des faits. Alors on pouvait la supporter au 19e siècle quand on était peu documenté, mais maintenant que l'on connaît par le détail, par la science historique, la vérité sur toutes ces époques, on n'a vraiment plus d'excuses de continuer à mettre dans l'esprit des enfants des images d'Épinal qui les détournent entièrement d'une conception réelle de leur pays, dont ils puissent d'ailleurs avoir dont on puisse tirer des exemples dont ils puissent être fiers. Sur ce point, là, je dois dire intransigeant.
Et puis on voit dans le cadran solaire que certaines choses ne peuvent pas changer, ce sont les ressentiments, les jalousies, les haines, et il y a même pour les exercer, comme vous le dites, les commodités techniques, c'est-à-dire le progrès. C'est-à-dire qu'on a tout multiplié cette fois-ci.
C'est une des choses les plus émouvantes et les plus inquiétantes à la fois de toute l'histoire de l'humanité, que de voir la coexistence qui a toujours existé, malheureusement, à travers les siècles, entre des dévouements exemplaires, une solidarité dans certains esprits, une volonté de paix et de fraternité, et qui s'est toujours développé parallèlement aux pires exactions. Car à l'heure actuelle, ce qui se passe dans le monde n'a rien à envier à tout ce dont on nous a rebattu les oreilles sur le Moyen-Âge, Gengis Khan et le reste. Vraiment, simplement, la technique née de l'intelligence humaine, ce qui est paradoxal et navrant, a été mise à la disposition de la méchanceté humaine pour en multiplier les effets désastreux. Tamerlan, il lui fallait plusieurs années pour arriver à des massacres qu'on a réalisés techniquement en très peu de temps. Alors, ce qui me frappe le plus, alors, et qui vraiment m'inquiète le plus, c'est que l'homme est un animal contradictoire, comme tous les animaux. Mais il est le seul, qui mette la pensée, et qui mette par conséquent ce qu'il a parmi tous les autres animaux de supérieur, l'expression d'une pensée par le langage articulé, qui se servent de cette supériorité pour accroître encore les moyens de sa méchanceté. Parce que les animaux se battent entre eux, mais pour au nom d'une doctrine et d'un principe, c'est pas pour faire le bonheur des autres loups, hein, qui se bouffent entre eux. Tandis que maintenant, on se sert de la parole articulée, on se sert de l'éloquence, on se sert du discours, de la conviction, pour entraîner les hommes à se haïr au lieu de se comprendre. Je crois que c'est une des choses les plus inquiétantes.
Et puis, Philippe Lamour, vous tirez souvent la sonnette d'alarme. J'en tiens pour preuve ces phrases. Le pays s'endort dans un rêve. Il faut l'en sortir avant que ce rêve devienne un cauchemar. L'opinion sent confusément qu'on l'anesthésie. Cela voudrait-il dire que les médias font un travail qui n'est pas celui que vous souhaitez?
Les médias interprètent. Et relate.
Non, vous pouvez tout dire, vous savez.
Non, mais les médias interprètent et relatent d'abord, n'est-ce pas, une volonté de rassurer, même quand rien n'est rassurant, une volonté qui vient de la plupart des pouvoirs publics et que dont tous les partis, malheureusement, sont responsables. Aucun ne voulant risquer l'aventure électorale qui pourrait résister, du courage, de vérité désagréable et de secouer une opinion qui demande à continuer à roupiller. Bon. Mais je dois dire que j'accueillerai, en ce qui me concerne, avec beaucoup d'enthousiasme et de soulagement, le fait qu'il se trouve dans ce que l'on appelle maintenant, de ce langage bizarre, les médias, un sursaut contre ce chloroformage général des consciences, et que plusieurs organes de presse, de télévision ou de radio aient rapidement le courage de dire ce qui est vraiment. Et ce qui, au lieu d'inquiéter l'opinion, la rassurerait, car à l'heure actuelle, son inquiétude vient de ce qu'elle sent qu'on lui cache l'essentiel, et je crois que si on la mettait devant la réalité, elle y puiserait plutôt la résolution et le courage que le désespoir.
Alors j'ai compris, le temps de la facilité est révolu.
Oui, même si nous ne considérons pas nous qu'il est révolu, il va être révolu de l'extérieur. S'il n'est pas de l'intérieur, il sera de l'extérieur.
Et si vous reveniez à votre enfance, votre jeunesse plus exactement, vous seriez aujourd'hui au Canard Enchaîné.
Ben, j'y étais.
Oui, c'est pour ça, je vous dis.
Hein,
ce sera un retour normal, puisque vous retournez sur tous les chemins de l'enfance.
Ah ben, ils ne m'ont pas encore demandé, mais enfin, ça peut être ma dernière collaboration.
Mais vous pensez, Philippe Lamour, que vous êtes aujourd'hui encore, pardonnez-moi de vous le dire, mais vous êtes tellement vert que je peux, à 77 ans, un conquérant?
Oui, mais j'ai plus rien à conquérir.
Ah ben, pourquoi? Alors là, c'est un abus de faiblesse.
Ah non, enfin, écoutez, moi je crois que jusqu'au bout, n'est-ce pas, il ne faut pas se mettre à regarder les âges, tout ça n'a rien à voir, n'est-ce pas, nous sommes dans un destin qui nous est commun à tous. Tant qu'on est vivant, tant qu'on est debout, on marche, on agit, on espère, on entreprend. Et puis, mon Dieu, quand le terme arrivera, ben il arrivera, d'autres continueront. Mais si on commence à l'âge de 50 ans à se mettre soi-même à la retraite mentale, à dire je suis un vieux, et puis j'ai des maladies, puis j'ai du rhumatisme, et puis ce que j'ai fait, et puis les autres continueront, et mes chers enfants, de mon temps c'était mieux, tout ça, voyez-vous, c'est de la démission. Bon, quand j'étais jeune, je croyais que c'était mieux. C'est parce que j'étais jeune que c'était mieux. C'était ça qui était mieux.
Voilà.
C'est que j'étais jeune. Bon, mais maintenant, c'est pas plus mal qu'avant.
Vous pouvez encore dormir à la Belle Étoile ?
Oh, bien sûr. Eh bien, il faut bien.
Dans la couverture, oui.
Comment je vais vous faire ?
J'ai vu une très belle photo dans le cadran solaire de votre masse.
Oui.
Vous y revenez bientôt ?
J'y vis.
Vous ne pourriez pas vivre à Paris ?
Je viens ici le mercredi et le jeudi.
Donc, c'est une nécessité de venir vous retremper un tout petit peu ?
Eh bien, c'est pour faire de la décentralisation. Il faut bien qu'on se décentralise quelque part, on se décentralise à Paris. Il faut venir voir les jours par semaine. Et puis après ça, je vais vivre chez moi avec ma femme et mes enfants.
Je vous remercie, Philippe Lamour. Vous avez eu un destin original. Je rappelle que vous étiez fils d'agriculteur, mais vous avez fait un joli chemin. Et merci de nous le raconter si bien. Je rappelle que votre témoignage paraît chez Robert Laffont dans la collection Vécu, le cadran solaire. Demain, notre rendez-vous. Demain, un homme qui ne revient pas à l'actualité, qui a choisi au contraire une forme d'anonymat, mais il nous le dira. Il a été un artiste, un acteur, un ventriloque, Jacques Courtois. À demain, bonsoir.